Bonjour à tous, c'est l'heure de l'EM sur Transistor, un l'EM qui nous parle de voile aujourd'hui avec l'association Orion.
L'EM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Vous êtes à l'écoute du LEM sur Transistor, un LEM en mode sport. Notre invité dans cette émission va nous permettre de parler voile et accessibilité. Nous sommes avec Mathieu Simonet de l'association Orion. Bonjour.
Bonjour.
Alors l'association Orion, créée en 2002 à Brest, a pour objet de promouvoir et développer la pratique de la voile pour les personnes déficientes visuelles avec le plus d'autonomie possible. Et pour cette interview, nous retrouvons aussi Fred Sévère qui est avec nous en studio. Bonjour Fred.
Bonjour à tous.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour découvrir l'association Orion. Pouvez-vous nous présenter l'association, son rôle et puis ses actions pour aider les navigateurs en situation de handicap visuel ?
Oui, tout à fait. Bon, vous avez très bien présenté le sujet.
L'idée, j'ai trouvé sur le site.
Bon, on a bien fait le boulot alors.
Exactement.
Vous aussi. En fait, l'objectif de l'association, c'est de permettre aux marins déficients visuels d'être des équipiers autonomes à bord. Et donc, dans l'idée d'être équipier autonome, un équipier, c'est actif, c'est efficace, ça tient son poste. Donc, en fait, le rôle de l'association, c'est de fournir des outils et une pédagogie pour que les marins déficients visuels puissent honorer leur poste à bord. Les principaux outils, c'est les cartes en relief, les informations vocales. Et évidemment, pour construire ces outils-là, on est une association qui est composée essentiellement de marins déficients visuels. Et donc, on passe du temps à naviguer ensemble et à se dire « Ah, il nous manque ça !» Et après, on essaie de trouver des solutions avec les personnes concernées.
Fred, tu avais une question ?
Ouais, déjà, votre rôle à vous, vous êtes marin à la base ou vous avez un métier plutôt en lien avec la technologie ?
Plutôt un métier en lien avec la technologie. Alors après, je ne sais pas si on met le plaisancier dans le marin.
Plaisancier plutôt, ouais.
C'est ça, plaisancier plutôt.
Et donc, vous avez développé principalement une application pour permettre aux plaisanciers de pouvoir naviguer soit en régate, soit en navigation côtière. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a d'autres aspects que l'application ?
Alors oui, c'est effectivement le principal outil, l'application SARA, c'est Sail and Race Audio Guide, donc, qui permet en fait juste de vocaliser les informations de la centrale de navigation. Donc en fait, même si actuellement c'est ce qu'on diffuse le plus facilement puisqu'il suffit d'avoir un smartphone, j'en profite pour dire que ça ne fonctionne que sur des iPhones. On n'a aucun contrat avec Apple, mais il se trouve que dans la poche des déficients visuels, ce sont des iPhones, puisque c'est plus accessible. Il commence à y avoir quelques Android, mais c'est majoritairement des iPhones. En fait, cette application, même si c'est ce qu'on diffuse le plus, c'est plutôt le résultat de navigation en équipage mixte, déficient visuel voyant, où finalement on a construit des cartes en relief. Au début, ce n'était pas une application, c'était un ordinateur sur un seul bateau. Et on a aussi travaillé sur finalement tout ce qui va être des repères à bord pour s'y retrouver dans les boots avec du braille, des étiquettes, pas s'en mêler dans le SPI avec un avaleur de SPI façon catamaran mais sur un habitable. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a essayé de régler les problèmes qu'on pouvait rencontrer sans y voir sur un bateau au fur et à mesure. Et finalement, le temps a permis de focaliser sur finalement la plus grosse difficulté quand on n'y voit pas à bord d'un bateau, c'est les collisions. Puisque finalement, le vent, les réglages de voile, un bateau est naturellement accessible. On a toujours des très bons moments là, avec les marins déficients visuels où en fait... ils peuvent conduire juste avec les sensations. Et là, on n'a pas besoin de l'application SARA, on n'a pas besoin de cartes en relief. Une personne déficiente visuelle, En général, s'y retrouve bien sur un bateau. Il y a un truc important à dire, c'est que les marins déficients visuels n'ont pas attendu l'application SARA, et encore, enfin, ne nous ont pas attendu, et encore moins l'application SARA, pour faire du bateau. Dans les années 80, il y a déjà... il doit y avoir des histoires avant, hein, mais la seule que j'ai trouvée documentée, en 80, un marin non-voyant rallie Hawaï à la Californie. Je ne sais plus exactement quelle distance ça fait, mais enfin, ça fait quelques jours de mer, et il était en solo, sans y voir. Donc voilà.
Par contre, par rapport à ce que vous nous dites, il y a un truc qui est dommage, c'est que préparant cette émission, on s'est rendu compte que la voile n'était pas un sport para. C'est quand même dommage. Ça nuit peut-être au développement de la pratique ou pas, ou c'est quelque chose dont la communauté de sportifs s'en fiche un peu.
Non, tout à fait, vous avez raison. C'est un problème là qu'actuellement la voile ne soit pas aux Jeux paralympiques.
Et donc c'était le cas à Paris cet été, et ce sera aussi le cas à Los Angeles en 2028.
Ben oui, apparemment oui. Alors on espère que ça changera après. Ça l'était avant. La voile était paralympique. Bon, on a quand même, puisqu'on parle là du sport de haut niveau, on a quand même un équipage français qui est double champion du monde depuis cette année. Composé de Ange Majeron et puis Olivier Ducruy, qui sont respectivement IMC et non-voyants.
Pour le premier acronyme que vous avez donné, je n'ai pas bien entendu.
Infirme moteur cérébral.
Ok, voilà, c'est ça.
IMC, tout à fait. Et donc là, ils naviguent incroyablement bien, ils s'entraînent comme des professionnels. Ce sont des championnats du monde World Sailing qu'ils ont gagné 2 années de suite. On espère bien que du côté du sport de haut niveau et de la voile en France.
Le sport de haut niveau ne se traduit pas tout le temps par une participation aux JO, aux Jeux para, quoi.
Bah oui, oui, voilà.
Alors pour revenir un petit peu aux objectifs de l'association Orion, comment est née l'idée d'ouvrir ce monde de la voile aux personnes non-voyantes? Vous l'avez un peu évoqué.
En fait, je pense qu'à la base, c'est plutôt une curiosité de ma part de me demander comment les déficients visuels arrivent à faire du bateau, puisqu'il y avait déjà des championnats du monde blind sailing. Et en fait, au moment de cette curiosité, donc moi je faisais des études STAPS, sciences et techniques d'activité physique et sportive, et donc pour le mémoire, j'avais travaillé sur cette question-là de comment une personne déficiente visuelle peut barrer un voilier. C'est là où je m'étais rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. Le bateau était accessible et la nature de l'activité était accessible. Je vais essayer de l'expliciter. Et en fait, on s'est tellement bien amusé. À l'époque, c'était avec Bruno Kelec, qui était président de l'association Clair Obscur et de l'Institut IPIDV, Institut pour l'insertion des déficients visuels. Ça s'appelait à l'époque. Et à ce moment-là, on s'est tellement bien amusé qu'on a créé une association et on a continué à naviguer. Et donc là, on est 20 ans plus tard et on continue.
Et l'association Orion a plus comme finalité d'accompagner les déficients visuels, ou si à côté, il n'y a pas aussi un côté recherche, technique et innovation pour aider justement les personnes en situation de déficience visuelle?
Oui, complètement, vous avez raison.
Il y a un côté geek.
Tout à fait, il y a un côté geek. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, on n'est pas du tout geek. C'est-à-dire au moment où on commence à jouer avec ça, on est faire des cartes en relief en mettant tout simplement de la peinture sablée sur la côte. On est à essayer de faire des parcours de régate en chronométrant avec les montres des personnes non-voyantes les temps passer en tribord armure et en bâbord armure, enfin d'un bord sur l'autre. Bref, on essaie de trouver des petites techniques comme ça. Et on ne pense pas du tout à aller chercher les nouvelles technologies avant que des gens qui, eux, sont des informaticiens, nous disent « Mais en fait, vous pourriez faire quelque chose avec l'informatique. » Et donc, finalement, je ne sais pas si on a été vers l'informatique ou si l'informatique nous a récupérés. Et donc, finalement, pendant une quinzaine d'années, on a vraiment beaucoup accueilli de public. On a passé beaucoup de temps à naviguer. Et chaque séance de navigation permettait de tester du matériel. Et là, en fait, avec les années qui sont passées, on utilise plutôt notre expertise, notre expérience pour mettre au point des outils et les diffuser, enfin, les rendre disponibles. J'ai envie de dire, principalement, l'objectif, c'est que les gens puissent vraiment les utiliser. Donc, principalement pour les clubs. Un gros représentant, c'est les Glénans. On passe beaucoup de temps actuellement avec les Glénans à leur montrer comment, à montrer aux chefs de bord des Glénans comment fonctionnent nos outils, comment fonctionne la pédagogie. On fait des formations de moniteurs. Alors quand je dis comment fonctionne la pédagogie, c'est comment fonctionne la pédagogie que nous utilisons et avec les outils que nous utilisons. Mais on est toujours en quête d'amélioration et il arrive très régulièrement qu'on ait des jeunes moniteurs qui n'ont jamais encadré avec des publics déficients visuels, qui ont des super idées et qui viennent apporter leur pierre à l'édifice. Donc il y a une petite co-construction avec les Glénans en ce moment pour essayer d'améliorer les outils.
Dis Fred, si t'as une question.
Oui, vous parliez d'Olivier Ducruy tout à l'heure. En fait, je crois qu'il était porteur du projet Cessivoil. Donc, il est à la fois champion et puis aussi pédagogue. Il transmet. Qu'est-ce que vous a apporté ce projet Cessivoil et quelles sont les perspectives à l'avenir? Combien de personnes ça peut toucher au final de plaisanciers malvoyants qui pourraient bénéficier de ces projets-là?
Alors, Olivier, ce qui est très intéressant, c'est que avant tout, il fait du bateau sans y voir, avec ses amis voyants depuis longtemps. Ensuite, il est, au moment où on se rencontre en 2009, il est responsable d'accessibilité chez Orange. Donc, en fait, il porte l'accessibilité numérique dans sa vie de tous les jours. Et donc, quand il vient naviguer à Brest sur le bateau qui parle, puisque finalement en 2008, moi j'avais fait un doctorat dont le résultat était de mettre au point un système informatique qui permet d'avoir des informations vocales qui répondent aux besoins des personnes déficientes visuelles. Donc, on était déjà dans un truc un peu de co-conception. Sur la semaine, là, avec Olivier, on s'est beaucoup amusé et à la fin de la semaine moi j'ai dit oh faut qu'on joue encore, c'était bien, j'étais content de d'avoir passé du temps avec Olivier qui était autant intéressé par le système et puis lui est reparti en disant mais faut absolument pas qu'un bateau qui cause ce soit que dans la rade de Brest. De nos jours, il y a les outils, il parlait de l'iPhone, qui permettent que chaque marin déficient visuel ait dans sa poche la possibilité de faire parler le bateau. Et donc c'est à partir de là, en fait, où on a lancé une collaboration, on n'a jamais arrêté, avec des stagiaires chez Orange. Après lui, il a fait un mécénat de compétences où il est parti à l'UNADEV, l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels en France. Et il a monté le projet Cessivoil de toutes pièces. Il était sur tous les fronts, c'est-à-dire le développement des outils, l'organisation de croisières, l'organisation de régates, la participation à des régates pendant 5 ans. Et là où il a été très fort, c'est que là, il est à la retraite maintenant. Et en fait, l'activité a tellement pris. Alors, combien de personnes s'adrènent le projet Cessivoil, j'aurais du mal à le dire. Mais en tout cas, au moment où Olivier est parti, il a été remplacé par Céline Choulet, qui travaille à l'UNADEV sur le projet Cessivoil et qui continue ces actions-là avec beaucoup de passion aussi. Donc, c'est super. Là, je n'ai pas répondu à la question sur le nombre de personnes. Nous, on sait qu'on a 200 personnes qui utilisent l'application SARA à travers le monde. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'application qu'on ne connaît pas. De temps en temps, on a un mail.
Est-ce qu'elle est en téléchargement ?
Elle est en téléchargement,
ouais.
Gratuit.
Ouais.
Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on se retrouve finalement à rencontrer les gens quand ils ont des problèmes à utiliser l'application. Des fois, on a des gens qui écrivent un mail en disant « Ah, ça fait 2 ans que j'utilise l'application Sarah, mais là, la nouvelle fonctionnalité branchée sur la centrale, j'y arrive pas, est-ce que vous pourriez m'aider ?» Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a une communauté qu'on connaît pas, qui utilise l'application Sarah. Alors à la fois, ça nous fait plaisir, et puis en même temps, on est un peu triste de pas les connaître, ces gens-là. Donc on réfléchit en ce moment à comment les atteindre et comment fédérer un peu plus autour de cette application.
Et là, il y a le côté un peu pratique qui va m'intéresser. C'est l'application Sarah. En fait, par quoi ça se traduit sur le bateau ? En fait, c'est quoi les aides qui sont apportées ? C'est quoi les informations qui sont données ? Et d'où proviennent les informations ? Là, c'est le côté un peu geek qui parle. Là.
ouais, complètement. Non, tout à l'heure, on a évoqué que un bateau est la voile est naturellement adaptée. Par contre, la gestion d'itinéraire, pas du tout. C'est-à-dire éviter d'abord la côte. Tout simplement sans y voir, là un bateau prévient pas quoi.
Un voyant ne voit pas toujours non plus ce qui est sous l'eau, donc en fait il est obligé de se fier à des outils pour essayer de voir ce qui est sous l'eau.
Ouais, tout à fait. C'est encore plus flagrant quand on n'y voit pas, mais c'est vrai que y voyant, il y a quand même besoin d'outils avec des cartes marines. Et puis même des radars en cas de visibilité faible. Donc en fait, l'application Sarah, elle, ce qu'elle fait concrètement, c'est qu'elle dit, bon voilà, au moment où le marin voyant sait faire, parce qu'il a des outils qui lui apportent l'information, cette information pour le marin voyant, elle est visuelle, quasiment tout le temps. Pour le marin non voyant, ben, on va la mettre en vocal. Donc en fait, ce que le marin voyant voit les informations de navigation, donc la vitesse, la profondeur, son cap, le cap qu'il faut faire pour atteindre le prochain point de route, la distance du prochain point de route. Et toutes ces informations-là, l'application Sarah permet de les consulter sur le téléphone. Alors il y a finalement différents niveaux. Déjà, il y a tout simplement en connectant le téléphone à rien du tout, juste avec son propre GPS. On peut là avoir une route, des points de route à suivre, et donc on va dire éviter la côte puisque on aura une route à suivre. Là, il y a deux systèmes. C'est pour répondre à la partie geek. Ouais. Il y a la partie où on a le temps tranquillement. On va aller tripoter, je vais dire, le téléphone pour le faire parler avec les lecteurs d'écran. Si vous connaissez, hein, c'est nous on regarde nos smartphones et les personnes déficientes visuelles posent leurs doigts et au moment où ils posent leurs doigts sur un élément du téléphone, ça l'annonce vocalement.
C'est pour ça que peut-être l'utilisation d'iPhone est un petit peu plus surreprésentée, c'est parce que c'est bien fait justement sur les iPhones.
Tout à fait, oui, tout à fait. Et alors après, il y a un autre système aussi, c'est que par moment, enfin quand on fait du bateau, on n'est pas tout le temps sur son téléphone. Bon, encore que, mais y a des moments où finalement on est en train de régler les voiles ou alors il y a de l'eau qui arrive sur le pont. Il y a pas mal de moments finalement où c'est pas pratique d'aller consulter le téléphone à la main. Et donc là, on a un système d'annonce vocale, donc automatique, pardon. Donc là, en fait, on règle des seuils. C'est-à-dire que, bon, pour prendre un exemple tout simple sur le cap, on va régler dans Sarah de lui dire à partir du moment où le cap varie de plus que 10 degrés, que ce soit d'un côté ou de l'autre, une annonce sera déclenchée. Et comme cette annonce, on fait cap au 270, tant qu'on sera en train de naviguer et que le cap sera compris dans la fourchette 261-279, on n'aura pas d'annonce. Et à partir du moment où on va arriver au 280 ou au 260, là, on aura une annonce, ce qui revient à dire, tant qu'il n'y a pas d'infos, c'est que rien n'a changé. L'objectif de ce truc-là, c'est de laisser les marins déficients visuels continuer à écouter le vent, à écouter la glisse, ouais. et pas être dépendant d'une annonce vocale qui... C'est l'inverse. Ce qu'on essaye de faire, c'est que les annonces vocales soient un retour... un feedback sur ce que vient de faire le marin déficient visuel et que ce ne soit pas un guide à suivre. Voilà.
Pas se reposer totalement dessus aussi, laisser parler ses propres sens, ses propres capteurs en fait.
Oui, tout à fait.
Et vous, pour cette partie-là, pour la conception, j'y vais, sauf si Fred t'as une question, j'ai plein de questions.
Vas-y, après ce sera moi.
pour développer ces outils, vous avez été aussi, vous vous êtes mis en situation aussi de déficience visuelle. Est-ce que vous avez fait de la voile justement avec des masques, quoi?
Alors, c'est peut-être, peut-être que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai beaucoup accroché sur cette problématique. Je pense que la première raison, c'est qu'on s'est très bien entendu avec les personnes déficientes visuelles. Et la deuxième raison, c'est que, effectivement, comme c'est très facile de se bander les yeux, ça permet de pas aller vivre ce que c'est de pas y voir, mais en situation sportive, donc sur une tâche précise, de véritablement aller se rendre compte de ce qui marche et de ce qui marche pas en repère. Moi, je suis un grand fan de me bander les yeux. À chaque fois, j'ai l'impression de partir dans un environnement multisensoriel vous l'avez certainement fait, on se rend compte quand on se bande les yeux à quel point il y a énormément d'informations sonores, tactiles qu'on n'utilise pas parce qu'on a les yeux ouverts, donc on est diverti par les informations visuelles. Il y a tout ce monde multisensoriel qui est très intéressant à découvrir. Alors après, évidemment, en tant que voyant, le fait de pouvoir enlever le bandeau facilement rend le truc fun. Ça reste difficile quand on n'y voit pas de par moment avoir des doutes et pas pouvoir enlever le bandeau et se rassurer. Et c'est là où nous, on a tendance à dire la force d'un équipage déficient visuel voyant, c'est plutôt la mixité, c'est de venir... mélanger ces différentes sensations et de faire un équipage efficace avec tout ça.
Et je me disais, est-ce que les voyants, est-ce qu'il y a des voyants qui utilisent Sarah justement pour améliorer l'expérience de voile ou pas, ou ça peut être une possibilité d'utilisation?
Je pense que c'est le moment de vous parler de Sarah Regatte. Est-ce que vous avez entendu parler de Sarah Regatte?
Eh ben, c'est une transition toute faite.
Tout à fait. Donc en fait, Sarah Regatte, c'est des régates où tout le monde a les yeux bandés à bord. Donc on fait des équipages de 3 personnes, tout le monde a les yeux bandés. Donc la règle, c'est que... Alors c'est comme le torbal, hein, tout le monde a les yeux bandés en torbal et les voyants peuvent jouer. On n'a rien inventé là-dessus.
Oui, exact. Ouais.
Et donc là, sur Sarah, ben, l'équipage, tout le monde a les yeux bandés. Donc il y a des équipages qui sont en général composés de déficients visuels et de voyants. Ce qui, au passage, facilite la logistique pour se déplacer sur les différents sites de pratique. Et puis aussi pour que, finalement, ce soit une pratique où, finalement, complètement inclusive, où on se retrouve avec des situations souvent très sympas, où ce sont les marins déficients visuels qui expliquent les choses aux marins voyants quand tout le monde a les yeux bandés. Et donc sur ces régates-là, c'est l'application Sarah qui indique le temps par rapport à la ligne de départ. Est-ce que la ligne de départ est franchie? Est-ce qu'on a fait le tour des bouées? Et donc c'est Sarah qui fait foi. Par contre, pour le moment, on n'a pas de système de signalement de l'autre bateau inclus dans Sarah. Ça y est, on a les sous, on va s'en occuper cette année. Mais jusqu'à maintenant, on a fait... 5-6 régates officielles au calendrier FFV avec des arbitres voyants qu'on remercie parce que c'est toujours beaucoup de boulot, qui sont embarqués à bord, qui n'ont le droit qui n'ont pas du tout le droit d'aider, qui ont le rôle de signaler la position de leur bateau par rapport à l'autre bateau avec une corne de brume ou un sifflet. Donc en fait, quand le bateau se déplace, l'arbitre souffle dans un sifflet. Donc, deux coups en tribord amure, donc quand le vent arrive par la droite du bateau, comme ça signifie qu'il est prioritaire au passage, c'est intéressant. Et un coup en bâbord amure, donc quand le vent arrive par la gauche sur le bateau. Et, ah oui. Et donc, en fait, avec ce système-là, on se retrouve avec une sorte de dialogue d'arbitre. Et c'est là où le fonctionnement humain est très intéressant et on est très content de ne pas être allé tout de suite dans la technologie et d'avoir pris le temps de voir comment ça fonctionne sur l'eau. Parce que finalement, deux bateaux qui s'éloignent, les arbitres soufflent plus dans les sifflets. parce que c'est fatigant de souffler dans les sifflets et que quand ça sert à rien, parce que les bateaux sont loin, ça casse les oreilles à tout le monde, ben, personne ne le fait. Et par contre, quand les bateaux se rapprochent, là, on a un vrai dialogue d'arbitre. Il y en a un qui va siffler, ça va faire titit, titit, titit. Et puis plus on se rapproche, plus ça va titit, titit, titit. Et plus on s'éloigne, plus c'est un petit coup de temps en temps, titit. L'autre, l'arbitre, il est à 100 mètres, donc tranquillement, il prend son temps de répondre un petit coup de sifflet. Et donc, avec ce système-là, on évite d'avoir des collisions. Mais pour que ce soit quand même assez safe, on a mis une règle dans les règles de course. 10 secondes avant la collision, l'arbitre le dit. 6 secondes avant la collision, l'arbitre dit ce qu'il faut faire, s'il faut virer, lofer, abattre. Et là, du coup, l'équipage qui s'est donc fait aider par l'arbitre doit faire un 360. Et si, en fait, on arrive à 3 secondes avant la collision et qu'en fait, l'équipage n'a toujours pas fait ce qu'il faut, là l'arbitre saute sur la barre pour éviter que les bateaux se tapent. Des bateaux qui se tapent, on peut se faire mal, hein, surtout quand on n'y voit pas, qu'on ne le voit pas arriver, etc. Donc, on veut
la
pas...
surprise.
La surprise, ouais. On ne veut pas que les bateaux tapent. Et donc, là, quand l'équipage a nécessité l'intervention de l'arbitre sur la barre, là, après, il y a 2 tours à faire. Ça handicape pas mal, quand même.
Le temps passe vite, il est temps de poser la dernière question. Oui. Ce serait peut-être bien, Fred, la question justement sur le but ultime de tout ça.
Oui, justement, est-ce qu'on peut imaginer demain qu'un navigateur plaisancier puisse prendre la mer seul avec l'application et voire même faire le Vendée Globe?
Le truc ultime.
Je peux dire mon avis, je pense pas que je vois tout, mais des gens qui ont fait des déficients visuels, qui ont fait des traversées d'océan, même de l'océan Pacifique, en bateau, ça s'est fait. Donc le but ultime, non seulement ça s'est fait, mais en plus ils nous ont pas attendu et ils avaient pas beaucoup de technologie, donc ça c'est possible. Une grosse prise de risque, un gros engagement en termes d'angoisse, c'est vraiment conséquent, je pense, de gérer quelque chose comme ça. Mais il y a des marins déficients visuels incroyables. Après, un Vendée Globe. Oui, moi je pense que ce serait jouable. Alors ça nécessite un engagement vraiment très important humainement de la part du coureur, donc du coup déficient visuel qui... Enfin, alors après il y a peut-être un peu une différence aussi entre déficient visuel et malvoyant, et en situation de cécité complète. Je pense que c'est un peu différent. Pour l'instant il y a rêve à perte de vue, là tout de suite j'ai oublié son prénom, mais il y a un marin déficient visuel qui court en double en classe 40 et qui a fait une régate en Méditerranée il n'y a pas longtemps et qui lui fonctionne très très bien en double sur de la course au large. Bravo à lui, et je pense que la course au large se prête très bien à l'exercice. Nous, la position qu'on a à l'association Orion, c'est quand même plutôt de dire qu'on souhaite travailler sur des équipages mixtes, avec des complémentarités entre les marins voyants et non-voyants, parce qu'on a du mal à assumer de pouvoir vraiment fournir tous les outils nécessaires pour être en sécurité en l'absence de vision. Bon, avec la vision aussi, hein, y a des difficultés sur la sécurité en bateau et on peut rien garantir. Mais y a la conclusion, je pense que ça peut être fait de faire le Vendée Globe sans y voir du tout. Mais il y aurait pas mal de travail de préparation quand même technologique par rapport à la gestion de tout ça et surtout un engagement très fort de la personne.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu Simonet. Merci. De l'association Orion d'être venu jusqu'à nous.
L'EM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.